愿吧。
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France, une émission spéciale, chacun à la maison. Et pour animer cette émission, nous sommes quatre, il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Salut à tous.
De Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Pour ouvrir cette émission, je vous propose de parler de news diverses. On écoutera sûrement de la musique avec un back-to-back. Alors, on va parler un peu de jeux de société, même si on va partir dans l'espace. D'habitude, c'est un voyage ludique et cette fois-ci, on va le pousser un peu plus loin. On est devenu un peu addict de ce jeu qui s'appelle The Crew, où on va être tous dans un vaisseau et on va devoir parcourir depuis la Terre et aller jusqu'à Jupiter.
On ne sait pas, planète mystérieuse, on ne sait pas encore. On est bientôt à la fin, mais on ne sait pas. Il ne faut pas spoiler en plus.
Un jeu coopératif avec des cartes. C'est un peu comme si on faisait, allez, pour être vulgaire, une belote tous ensemble.
Qu'est-ce qu'il y a de vulgaire dans la belote?
On va dire une
belote dans l'espace.
On va dire le tarot. C'est vraiment le tarot ou la belote coopératif. C'est vraiment ça. Parce qu'on va devoir réaliser des plis, voilà, c'est ça, on va faire des plis, sauf qu'au lieu de jouer les uns contre les autres, on va jouer tous ensemble. Et donc, il y a 50 missions, les premières sont très simples, c'est de l'initiation, jusqu'aux suivantes qui sont de plus en plus complexes, plus on s'éloigne de la Terre pratiquement. Il faut réussir à faire des plis, certaines conditions, par exemple, tel joueur doit remporter une plie avec une carte, la carte 8 verte, etc. Ou alors, aucun des joueurs ne doit remporter de plis avec telle ou telle carte. Enfin, il y a plein de missions très variées, c'est très addictif.
Alors, à chaque partie, il va y avoir un capitaine qui va être élu selon les cartes qu'il a en main, et il va devoir un peu influencer sur le déroulement de la partie, alors souvent avec des petits points de communication. Et ce qui est excellent, c'est que tout ça, à côté de tout ça, il y a une narration qui est faite où vous êtes un peu pris dans cette aventure de l'espace, puisqu'on va vous détailler un peu les missions qu'on va faire. Vous allez devoir aller dans la cale parce qu'il y a une fuite d'oxygène, et puis la mission se lance avec les objectifs. C'est vachement sympa.
Ouais, surtout que tu as les objectifs sont de fait thématisés grâce au petit texte qu'il y a devant la mission, et ça peut être tout simplement comme tu parlais d'une personne qui devait aller dans la cale pour réparer la fuite. L'objectif de cette mission, c'est peut-être que le joueur en question ne pourra pas faire de plis, vu qu'il est parti faire une réparation.
Ou au contraire, c'est ce joueur-là qui va te faire peut-être pas toutes les plis, mais et tout le monde. Le principe, c'est que on pourrait se dire, c'est simple, il suffit de dire ce qu'on a en main. Mais non, on n'a pas le droit de parler. Comme on est dans l'espace, les communications sont limitées. On n'a pas le droit de dire, chaque joueur aura le même nombre de cartes en main, pratiquement. Mais on peut pas dire qu'on a, on peut pas communiquer. Donc les autres, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a le capitaine qui est désigné parce que il a le 4 d'atout, qui est la carte la plus forte. C'est tout ce qu'on sait. C'est lui qui va commencer à jouer. Et il y a des petits moyens de communiquer, mais de façon minime. C'est surtout ça, que si on pouvait parler comme on voulait, ça serait très facile. Mais le fait que justement on doit rester pratiquement silencieux, tout le sel du jeu est là.
Et en plus, le fait que c'est des objectifs pour une mission et que les cartes sont complètement mélangées et distribuées, on se retrouve avec tu peux refaire le même objectif la partie suivante avec une nouvelle main, et la partie sera complètement différente. Tu peux avoir un objectif qui va être très facile une fois, relancer une partie avec les mêmes objectifs. Comme ta main de carte sera complètement différente, tu vas te prendre la tête et te dire, mais en fin de compte, c'est pas possible à faire. Donc chaque objectif va être refait des centaines et des centaines de fois.
Tu le refais surtout 100 fois parce que t'as perdu.
Ouais, puis après, tu prends un malin plaisir, comme on parlait de belote et de tarot, tu prends un malin plaisir à jouer avec les mêmes personnes parce que t'as une sorte de petit courant qui passe entre les joueurs, une sorte de non-dit dans la façon de jouer. Et je pense qu'on a tous des fois des objectifs ou des missions qu'on a bien aimées, qu'on aimerait bien refaire. Et je pense qu'on les a un peu toutes différentes les uns les autres, et qu'on aimerait bien refaire justement avec une autre façon de jouer, quoi.
C'est un peu la même impression qu'à The Game. The Game, le jeu où tu dois mettre d'ordre croissant, mais sans parler. Au bout d'un moment, c'était... avec les joueurs, tu crées cette connexion et après tu peux jouer à The Mind.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pensais que tu parlais de The Mind justement.
À noter quand même que le jeu The Crew a gagné ce qu'on appelle le Kennerspiel, donc le jeu des connaisseurs, donc au Spiel des Jahres, donc au jeu de l'année. Quand même un gage de qualité, un jeu qui était reconnu du coup par beaucoup de joueurs.
Le mec, il s'en remet parce qu'il était là-bas le jour où ça a été élu et tout.
Bah non.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu, c'est un jeu allemand à la base, mais comme c'est que des cartes, il y a des grandes cartes et des petites cartes, mais il y a pratiquement pas de texte. Il y a un livret qui est fourni avec, qu'il faut lire, mais bon, on pouvait trouver les traductions très facilement en ligne. On pouvait très bien, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu en version allemande et qui ont joué simplement avec le livret anglais téléchargé, et ça a bien marché. Donc maintenant, il est sorti en français chez Yellow, il est entre 12 et 15 euros. Selon les boutiques.
Ah, maintenant, il est revenu, puisqu'après la rupture de stock, c'est extrêmement difficile.
Dès qu'un jeu a un prix, de toute façon, dans la semaine qui vient, il est en rupture de stock en général.
Et en plus, il avait fait une très grande impression. Il y avait un buzz avant sa sortie. Tout le monde le voulait. C'était les boutiques qui l'avaient reçu au moment de sa sortie. Ils avaient pris deux cartons de 6 ou de 12 chacun. Dans la journée, c'était fini. Il fallait venir le jour de la sortie.
En sachant qu'il est sorti, ça fait quand même pas mal de temps, parce qu'il a dû sortir, je pense, fin 2019. Mais bon, c'est vrai que c'est surtout en 2020, quand il a gagné le prix, qu'il s'est fait connaître.
Alors, il y a une news qui est associée à ce jeu The Crew.
Absolument, j'ai vu ça l'autre jour. Et j'ai tout de suite pensé à The Crew, parce que c'est inventor.io. Ça s'appelle le Adventure Kit. Ça a commencé le 1er novembre. Et en fait, on peut commander en ligne un kit. Alors, c'est pas vraiment un jeu, mais il y a un petit côté jeu de société, jeu de construction. Dans ce kit, qui coûte 50 euros, il y a pour plus de 300 euros de valeur dedans. On a un mini ordinateur, on a plein de composants électroniques, mais il n'y a pas de soudure à faire, il n'y a que des montages très simples à faire. Et en fait, le principe, c'est qu'on a une mission. Le premier, on a 30 jours pour réaliser les 30 leçons ou les 30 missions. Contrairement à The Crew, au départ, on est sur une planète extraterrestre. On est au fond d'un lac, à 30 pieds de profondeur, 100 pieds de profondeur, à peu près 30 mètres. Et on a 30 jours pour apprendre à programmer les composants, à utiliser, à suivre les leçons pour développer, fabriquer une fusée, un vaisseau, etc. Apprendre à le défendre, apprendre à le contrôler, à le naviguer. Et 30 jours pour retourner sur Terre. Donc c'est vraiment un kit éducatif pratiquement pour apprendre à coder, pour apprendre à bricoler.
Ah, j'ai pas vu le marteau pour taper sur la machine quand ça marche pas.
Justement, je cherchais ça moi dans la liste des composants, mais pas moyen.
Donc si vous voulez commander votre exemplaire de l'Adventure Kit, c'est sûr. Alors Inventor, c'est inventor.io. Et on verra si dans 30 jours, après le confinement peut-être, ça tombe bien, combien il y a de gens qui vont réussir à rejoindre la planète Terre.
Après, tu vois, j'ai regardé les composants parce que moi, ça m'aurait intéressé de faire du télétravail, puis faire un peu de bricolage, de découvrir. Mais est-ce que c'est pas forcément réservé à des personnes qui s'y connaissent? Parce que vu le matériel que c'est, des fois, je fais, je reconnais une LED parce que voilà, j'ai fait je suis passé par le collège. Mais
justement,
après,
non, il n'y a même pas besoin de matériel. Faut pas de tournevis, faut pas de pince, de fer à souder ni quoi que ce soit. Il y a le tutoriel qui est fourni avec, il y a toutes les étapes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as le kit, tu as le mini ordinateur qui s'appelle un Arduino. Une fois que tu as tout le matériel, etc., tu peux très bien, grâce aux documents qui sont fournis, fabriquer d'autres choses, faire tes propres projets, tes robots. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé de musique?
Tu veux de la musique? Alors, je vous propose un thème qui a été lancé dans les back-to-back. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de back-to-back. Je viens de vous le poster, donc vous avez un court moment de réflexion. Je vais vous demander une chanson qui sort de terre.
Une patate?
Comme tu veux. Alors, ce qu'est la chanson, vive la patate.
Alors, il va y avoir des chansons sur les patates. Oh mince.
Et pour faire une belle transition, je vais demander à Pierre-Yves de commencer et de nous expliquer quelle chanson il a choisi pour sortir de terre.
Bah moi, quand on dit sortir de terre, je pense à l'espace.
À The Crew. Coup,
alors ouais, pas mal, mais non, pas si loin quand même, mais bon. Et puis, ça date un peu, mais c'était David Bowie qui venait décédé il y avait pas très très longtemps. Et en fait, j'aime beaucoup sa chanson Space Oddity, surtout que ça a été repris dans un film qui s'appelle La vie rêvée de Walter, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, Walter Mitty, quelque chose comme ça, c'est peu importe.
C'est ça.
C'est ça, bon, merci Dominique. En tout cas, j'adore cette chanson. Je la trouve géniale, donc voilà, c'est pour ça, effectivement, ça me fait quitter la Terre, donc sortir de Terre.
Mais alors, est-ce qu'on écoute la version de David Bowie ou celle de l'astronaute Chris Hadfield qui a chanté la chanson Space Oddity dans la station internationale.
Est-ce que Patrick Bruel n'a pas repris aussi cette chanson?
Ah, Patrick Bruel, oh la vache. Oui, quand même.
Ok, je vois qu'on sabre. Alors, on va s'écouter du David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Voilà, c'était David Bowie avec Space Oddity. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter cette chanson qu'on connaît tous? Alors, Reynald, est-ce que tu veux prendre le contrôle de mes tétons ?
Non, parce que la dernière fois, je me suis frappé par ta femme, donc je vais arrêter.
Alors, on parlait rapidement d'espace et surtout d'un jeu de société The Crew. Il y a d'autres jeux de société qu'on a testés, notamment Cartographeur, qui a eu un Kickstarter récemment pour sa deuxième extension. Un jeu qui a plus ou moins cartonné également.
Non, c'est ce que j'allais dire justement, comme The Crew, il avait été nominé pour le Spiel des Jahres. Puis après, je me suis plus souvenu s'il l'avait remporté ou pas.
C'est un jeu assez sympathique puisque vous allez pouvoir faire des petits dessins pour les artistes et qui aiment bien aussi de faire des jeux de placement de terrain un peu à la Carcassonne. Vous allez dessiner sur une carte des formes de Tetris qui vont créer plus ou moins un monde. Et à la fin, selon les objectifs, vous allez gagner plusieurs points. Et il y a des petites choses pour piquer vos adversaires. De temps en temps, vous allez prendre la feuille de l'adversaire pour aller un peu saborder sa carte pour que son terrain a l'air moins beau en fin de partie. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Cartographers d'ailleurs ?
Dans le style des ce qu'on appelle des Roll and Write, c'est l'un des mieux thématisés. C'est parce que souvent c'est un petit peu abstrait ce genre de jeu. Là au moins on a un parchemin, une carte et on a l'impression à peu près de dessiner un paysage et de construire un royaume, contrairement à d'autres jeux. Ça c'est le côté positif. La mécanique est assez simple à comprendre. Moi ce que j'ai moins aimé sur ma première partie, je l'avais déjà dit, c'est le côté les visuels, les cartes. Je trouve que la police de caractère est très mal choisie. On est obligé, il y a beaucoup d'informations à aller chercher un peu partout. C'est pas une salade de points, mais on n'est pas loin. Donc à chaque nouvelle carte, à moins de connaître vraiment le jeu par cœur, d'aller faire beaucoup de parties, j'étais obligé d'aller revoir chaque façon de calculer les points pour essayer d'anticiper. Donc les tours étaient un petit peu longs, je trouvais. Oh, c'était un petit peu moins intuitif, quoi.
Alors, sache qu'il est encore possible de participer au projet, ce qu'on appelle les Late Pledge, pour avoir cette extension qui s'appellera Cartographers Heroes. Et dans cette boîte, vous aurez plusieurs crayons de couleur, si vous prenez bien sûr la version premium, deluxe, etc. Enfin, le jeu, les extensions qui ont l'air assez sympathiques, de nouveaux objectifs, nouveaux terrains. Ça a l'air vraiment sympathique. D'autres... Pierre-Yves, tu as pu tester, toi ?
Non, je n'y ai pas joué. Par contre, alors, il est disponible sur tablette, hein, le jeu.
C'est vrai.
Alors, il n'a pas gagné le prix parce que, du coup, il était en concurrence avec The Crew. Non, je n'y ai pas joué. Après, bon, des jeux de ce style, j'en ai fait pas mal récemment. Bon, du coup, je me suis un peu lassé. Bon, je pense que, j'y jouerai quand même avec plaisir.
Cartographeur, il est sur, je pense qu'il est payant en application sur mobile, mais il y a un site où on peut y jouer gratuitement. C'est le site happymeeple.com. Alors c'est en anglais uniquement. C'est un site qui est très sympa, qui est gratuit, où il y a plein de jeux. Il y a quelques jeux solo, mais c'est surtout des jeux à deux. Et on peut jouer. J'ai fait quelques entraînements contre des intelligences artificielles. Et donc ça permet de s'entraîner et de un petit peu mieux connaître les mécaniques du jeu avant de refaire une partie en dur.
Et c'est pas gênant que ça soit en anglais, puisque la majorité des cartes sont des cartes où vous avez dessiné. Et de toute façon, en français, les objectifs, on les comprend pas non plus. Donc peu importe la langue, c'est pas gênant. Et pour l'anecdote, j'ai acheté le jeu en me disant ça a l'air génial et on n'y a jamais joué. Je savais pas que toi, Reynald, tu l'avais déjà dans ta bibliothèque.
Bah oui, parce que tout ce qui est Roll and Write de base, je suis assez fan. Donc je prends surtout quand le jeu a l'air pas trop mal. Je suis un peu achat compulsif à ce niveau-là. Et sur ce jeu, ce qui m'a plu, c'est outre le fait que tu peux voir la façon de scorer sur le long terme, parce qu'on va te dire que à tel moment on va compter ça, à tel moment on va compter ça. Donc c'est à toi aussi à faire une sorte de puzzle avec les formes qu'on te donne sur ton dessin, mais qu'à un moment donné, tu peux avoir une carte de créature qui va te tout chambouler, parce que dans ces cas-là, tu prends ta feuille et tu la donnes à ton voisin de gauche. Et lui, il va dessiner la créature qui vient d'apparaître sur ta feuille, rien que pour t'embêter, dans les endroits qui est forcément ce que tu avais prévu pour maximiser tes points. Mais toi, tu vas faire pareil avec ce que le joueur à ta droite va te donner comme feuille.
Donc, ouais, puis tu perds des points si t'as pas entouré les monstres, donc ça devient vraiment gênant, quoi.
T'as la dualité entre est-ce que je vais m'occuper d'entourer les monstres pour éviter qu'ils me fassent perdre des points, mais dans ces cas-là, je perds d'autres points ailleurs parce que je ne maximise pas ma façon de jouer, ou est-ce que je les laisse couler et puis ils me feront perdons des points tour après tour, mais par contre, il y a un point de bascule qu'il faut trouver, mais les parties sont assez simples. Donc, j'ai vraiment bien aimé.
Et c'est sympa parce que tu peux expliquer rapidement. La seule différence, c'est que les gens gagneront pas en fin de partie, mais ils arriveront à jouer en 10 secondes. Quoi. Tu leur dis, voilà, tu dessines cette forme avec telle couleur. Voilà. Ça, c'est la règle de base. Et à la fin, tu vas perdre, mais c'est pas grave, je t'expliquerai comment on gagne des points plus tard.
En même temps, tout est sur la table. Je veux dire, tu as quatre façons de marquer des points. Les quatre façons, elles sont sur la table. Au début, tu vas faire la première et la deuxième version. Eh ben, t'as déjà la troisième et la quatrième qui sont exposées, tu les connais. Donc, tu sais que tu peux préparer ton terrain. Après, c'est juste une façon de jouer plusieurs parties pour appréhender un peu le jeu. Mais ce qui est bien surtout, c'est qu'à la fin, tu vas prendre ta feuille, tu vas à la fin de la partie, que t'aies gagné ou non, tu vas prendre ta feuille et tu vas dire « Ah ouais, j'ai quand même dessiné une belle carte ». Et donc, on se fait une partie de jeu de rôle, j'ai déjà la carte, c'est parti.
Oui, bah, alors... certaines cartes, j'aimerais pas m'y promener. Hein.
J'ai cru que t'as dit autre chose au lieu de dessiner une belle carte.
Quoique, il y a certaines cartes, vu la façon de dessiner de certains, je pense qu'elles ont fini au petit cabanon au fond du jardin.
Avant ouais, de voilà, c'est ouais. Ce qui me semblait. Oui.
Est-ce qu'on se passerait pas un autre morceau de musique? Est-ce que quelqu'un avait une proposition pour ce thème de Back to Back, qui était la chanson qui sort de terre? Dominique, est-ce que tu as un morceau qui pourrait être... lié à l'espace et lié
à la Terre. Attention, du coup, moi, j'ai joué sur les deux sens. Donc, la Terre, la planète, et la Terre, le sol. Et je me suis rappelé que dans toute la série des films de Godzilla, donc Godzilla, c'est un monstre qui sort de Terre parce que à cause de l'utilisation, enfin, des explosions nucléaires, etc. Donc, c'est comme ça qu'a été créé le monstre Godzilla, donc qui sort de Terre.
Et je me suis souvenu les essais atomiques en France.
Exactement, les essais atomiques français, mais bien sûr, c'est bien connu.
C'est Jacques Chirac, en fait. Voilà, après Godzilla.
Et je me suis souvenu que dans toutes les versions, les dizaines de films de Godzilla, il y en a un où il va dans l'espace. C'est un film de 94 qui s'appelle Godzilla contre Space Godzilla. Et donc j'ai retrouvé la bande originale, enfin le thème principal du film.
Waouh.
Je crois que je vais me le mettre dans une future soirée nanar celui-là.
C'était Godzilla versus Space Godzilla.
Du lourd. François, est-ce que tu as un moyen de savoir s'il y a encore des auditeurs après cette chanson? Parce que
Parce que toi, tu l'as écouté, c'est ça? Tu n'es pas parti en posant ton casque par terre comme nous tous. Bah,
je reste pour l'émission, tu sais bien, je me sacrifie, mais bon.
Sachant que tu es notre auditeur number one. Quoi. On sait qu'on sait que c'est toi.
Bah voilà, tout à fait.
C'est marrant parce qu'on parle de jeux de société, on revient toujours sur l'espace. Est-ce que vous voulez continuer sur l'espace?
On peut continuer sur l'espace. Il y a Unlock. Est-ce que vous connaissez le Unlock, donc, qui sont des escape games?
Alors, c'est des petites boîtes qu'on ajoute et maintenant, comme ça, le premier a cartonné, là maintenant on le fait à toutes les sauces. C'est
ben ça voilà. Et y en
c'est
un
peu le Monopoly. Après Risk, après Monopoly, Unlock.
Alors, je parlerai après d'un Cluedo si vous voulez. Mais là pour l'instant, je vais parler de Unlock. Vendu. Ah, cool. Et en fait, effectivement, il y en a un qui est sorti sur le thème de Star Wars fin août. Donc, du coup, bah, comme d'habitude, hein, vous avez trois missions.
La première, tu dois échapper à Baby Yoda.
C'est un jeu coopératif, donc trois missions de difficulté, on va dire, enfin, oui, croissante. Donc en temps limité si vous le souhaitez. Et après, vous devez réussir donc à vous échapper. Alors là, je n'ai pas fait toutes les missions, mais j'imagine que à chaque fois, vous devez être alors soit un rebelle ou soit l'Empire et réussir à vous échapper. Donc voilà, tout le temps sur l'espace, effectivement, sur le thème de Star Wars.
Alors,
je ne sais pas combien ça aura coûté pour réussir à avoir la licence, mais bon.
Autour de cette table virtuelle, puisqu'on est tous à la maison, qui d'entre vous a des jeux Unlock ou Escape Game en général qui traînent dans l'armoire?
Des Escape Games, j'en ai un paquet, oui. Des petites boîtes.
Ouais, alors, les Unlock sont, comme dit Dom, c'est des assez grandes boîtes. Par contre, oui, au niveau petites boîtes, il y a toute la série des Escape. Ouais.
Il y a Exit. Puis il y en a plein d'autres qui se créent. Mais dans Unlock, dans une boîte d'Unlock, tu as trois missions. Là, il y a combien de missions dans le Star Wars?
Il y en a trois aussi. Alors, cette boîte, en fait, quand tu l'achètes, souvent, ce que tu fais, c'est que tu la donnes à quelqu'un qui te file une autre boîte de Unlock que tu n'as pas pour pouvoir faire les différents scénarios.
C'est vrai qu'une fois que tu as joué, à moins d'attendre quelques années pour y rejouer, tu te souviens des solutions. Donc, tu as un petit peu de mal à le faire. Tu peux faire jouer les autres, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, tu peux l'offrir une fois que tu y as joué. C'est qui est bien. Ou le revendre
aussi.
Ah. Bah, avant, on avait des petits casse-têtes personnalisés. Là, maintenant, on s'échange des unlocks. Quoi. Mais c'est vrai que c'est ça qui est frustrant d'avoir ça qui traîne dans l'armoire. Quoi.
C'est un petit peu différent parce que le casse-tête, je parle des casse-têtes, même style le Rubik's Cube, etc. Même si tu l'as fait, tu as le plaisir de la manipulation, qui est un peu différent, même si tu n'arrives pas forcément à le refaire du premier coup. Là, Unlock, c'est que c'est des énigmes, c'est des jeux, des codes, etc., ou des détails à trouver. En général, c'est des détails à trouver dans les images. Et une fois que tu sais où regarder, bah, tu l'oublies pas, quoi.
Je t'ai coupé, Reynald.
Non, parce que ça revient à peu près à tout ce qui était dit, mais t'as aussi le fait que t'as des manipulations pour trouver des fois certaines indices ou certaines solutions d'énigmes, et c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Il me semble que c'est dans Exit, dans cette gamme de boîtes d'escape game, où tu dois des fois plier, voire déchirer des cartes ou des papiers ou autres pour trouver des solutions, ou pour par exemple déchirer une carte pour créer un tangramme qui te permet d'après de fermer une forme, et ça te donne la solution, et ce qui fait que le jeu est devenu vraiment unique, parce qu'une fois que tu as fait ça, tu peux même plus le donner. Ça devient un objet à laisser chez toi ou alors à essayer de reproduire. Voilà.
Je vous propose d'enchaîner sur un autre jeu de société et qui est lié à l'univers spatial. Alors, même si c'est un peu du spatial horreur. Ah, mais ne me lance pas sur des choses.
Je me disais, c'est pas possible, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Comment c'est possible?
Je voulais parler de Alien Queen.
Yes. Enfin, tu veux parler de Cluedo sur le thème Alien versus Predator.
Parce qu'on parlait de risque, Legacy.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est une version du Cluedo qui est sortie en 2016, uniquement en version américaine. Et en fait, tu joues du coup un Predator et tu dois réussir à trouver donc la reine alien et puis l'affronter, pouvoir devenir un guerrier Predator. Et donc, c'est une version spéciale du thème Cluedo. Et tu dois découvrir, du coup, grâce à des indices, où se situe la reine, donc où est
son repère,
merci. Et puis voir, en fait, grâce à des combinaisons uniques d'objets et puis de compétences, comment réussir, du coup, à la vaincre. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2016. Et j'avoue, quand on a parlé du thème espace, je me suis dit, bah, ça rentre complètement dans le sujet.
Alors, qui d'entre vous se souvient des règles du Cluedo?
Oui, voilà. Oui, on désigne le crime. On fait, alors, il y a le crime, il y a l'arme du crime, il y a le lieu du crime et ben, pas la victime parce que c'est toujours la même. Ça fait trois éléments et le coupable, c'est ça. Donc, on prend un de ces éléments, chacun de ces éléments au hasard. On le met dans une enveloppe. Et pendant toute la partie, les joueurs vont essayer de deviner par élimination les cartes qui sont dans l'enveloppe.
En sachant qu'à chaque fois, on sait bien que c'est le colonel Moutarde avec le couteau dans la cuisine, mais ça, faut pas le dire.
En mettant la moutarde dans la cuisine.
Et à la, et à la fin, les joueurs font des déductions pour dire, eh ben, je pense que c'est un tel qui a tué un tel, enfin, qui a tué la victime avec telle arme à tel endroit.
Ah, parce et que si la victime, c'est... on sait quand même qui c'est la victime.
Il me semble que la victime change à chaque fois aussi. Ça fait tellement longtemps. Alors,
en fait, c'est de mémoire, c'était le docteur Lenoir qui était retrouvé mort et il fallait retrouver dans quel lieu, avec quelle arme et quel était le coupable. Tout ça, les lieux, les armes et les coupables, les personnages étaient en carte, en un seul exemplaire. Comme tu disais, on prenait une carte de chaque top pour créer une suite de dire, par exemple, comme tu disais, le colonel Moutard dans la cuisine avec le chandelier. Et toutes les autres cartes étaient mélangées et on les distribuait toutes à tout le monde. Et comme ça, on savait que ben, les cartes qu'on avait en main, c'était forcément pas les cartes qui étaient cachées. Donc, on pouvait dire, bah, c'est pas ça. Et après, il faut aller les poser des questions, faire des hypothèses, et en fonction des cartes qu'on nous ramenait, en disant, bah non, toi, t'as fait cette hypothèse-là, mais tu vois, t'as parlé de la cuisine, mais moi, j'ai la carte cuisine en main, ça peut pas être ça. Et donc, on faisait nos déductions pour être le premier et le plus rapide à trouver la bonne combinaison qui avait été cachée.
Incroyable. Heureusement, les jeux de déduction ont bien évolué depuis.
C'est ça.
Les derniers jeux d'enquête, tu utilises des applications pour fouiller la scène de crime en réalité augmentée et tout, c'est génial.
Et il y a même des applications pour aller t'emmener sur des faux journaux qui ont été créés en ligne pour que tu puisses passer ton après-midi à lire le journal. Exactement. Pour essayer de retrouver la ligne qui te donnera l'indice et qui peut être noyée dans plusieurs articles. C'est vraiment bien fait.
Voilà, et la semaine prochaine, on vous détaillera les règles de Scotland Yard. Alors, une autre chanson qui sort de terre.
Je ne serai pas là la semaine prochaine, hein. Je tiens à préciser.
Alors, Reynald, comme je vois que tu as fait un petit effort pour mettre une chanson fort sympathique, je t'en prie, la chanson qui sort de terre, qu'est-ce que ça t'évoque pour ce challenge de back-to-back?
Bah, forcément, tu mets le... Que sort de terre, on est en période de Toussaint, c'est la période Halloween pour les Américains, c'est nous la fête de nos morts. Je me suis dit, bah, un petit Romero, un petit zombie, quelque chose comme ça, un petit côté effrayant. Et après, je me suis souvenu d'un film qui était sorti en 2009, qui était Zombieland, où justement la musique du film est une reprise de Metallica qui était For Whom the Bell Tolls. Et c'est une chanson que j'adore. Je l'ai reprise à l'instrument, à la basse, tout ça. Je me suis dit, bah allez, c'est magnifique. Tu me fais un thème qui sort de terre. Bah, pourquoi pas parler de zombies alors? For Whom the Bell Tolls de Metallica. We'll be right back.
Voilà, c'était Metallica avec For Whom the Bell Tolls, qu'on a pu voir sur la bande sonore de Zombieland. Il y a eu d'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce Zombieland numéro 2 ?
Nope.
Non.
Assez sympathique, si vous êtes fan, bien sûr, du premier. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas la peine. Hein. Vaut mieux pas essayer.
C'est des zombies du 1 qui reviennent dans le 2, non, c'est ça ou...
C'est un peu comme un film de Kevin Smith. Si t'as vu le premier, tu vas comprendre tous les autres. Et si tu prends en cours de route, tu vas te dire c'est qui cet imposteur.
Avant la musique, on parlait d'Alien, et pour rester dans les news sur Alien, si vous le Cluedo, c'est pas votre truc, que vous préférez le jeu de rôle, il y a un jeu de rôle Alien, mais sauf qu'on joue des, je pense qu'on joue des Marines, on joue pas des Aliens, hein. Enfin, après tout est possible en jeu de rôle, et il y a un kit de démarrage qui est disponible, pour 47€, ça permet de tester un petit peu avant d'acheter tous les bouquins. Il y a un livre de règles avec les scénarios, des personnages à jouer, et le scénario, sans trop spoiler, on est dans un vaisseau, puis, ben, il y a quelqu'un qui disparaît, ou il y a des bruits bizarres, donc ça doit vous rappeler des trucs. Et toujours sur Alien, il y a deux séries en préparation. Je sais plus où on est au niveau des films, dont une série produite par Ridley Scott lui-même.
On est au niveau 4 dans les films. Enfin, il y avait le film, c'était le 4, le dernier.
Le dernier, je pense que c'était le 4, oui. Après, il y avait eu des films Alien versus Predator, mais bon, c'est pas pareil. Et donc là, il y a une série qui serait diffusée par Hulu, donc avec Ridley Scott en producteur.
Attendez, vous êtes en train de me dire que Prometheus, c'est pas un film Alien ?
Ah, c'est une préquelle, mais je l'avais pas compté dans les quatre.
C'est dans l'univers.
C'est dans l'univers. Après, là, récemment, je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Alien Isolation, donc qui est sorti il y a quand même 6 ans, vu que c'est en 2014, mais qui est vraiment excellent. Et c'est un peu comme le film Alien 3, c'est-à-dire vous êtes sur une base, vous n'avez pas d'armes en main, presque rien, et il y a un seul xénomorphe, un alien qui se balade dans la base, et c'est très flippant parce qu'en fait, dès que vous voyez, de toute façon, vous savez que vous êtes mort.
Tu joues dans le noir, bien sûr.
Il faut jouer avec le casque dans le noir, et c'est vrai que c'est très flippant, la musique est excellente, et vous entendez l'alien qui marche, tout ça, et puis vous avez votre scanner, comme dans les films, hein, dans le numéro 2 notamment, là ça fait bip bip bip, et vous dites, mais où est-ce qu'il est. Franchement, il est excellent.
Et c'est sur PC, c'est même sur Switch, sur toutes les consoles, y compris sur Switch.
Est-ce qu'on peut dire que, contrairement au film, dans le jeu vidéo, c'est Alien versus Predator qui est mieux que les jeux Alien?
Il y avait plus de possibilités, parce que tu pouvais jouer un alien en partant du petit facehugger, presque en sortant de l'œuf. Tu pouvais jouer un Predator et tu pouvais jouer les Marines. Et il y avait des scénarios pour chacune des trois espèces, on va dire, qui se recoupaient, que c'était très 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 bien fait. Et on pouvait même jouer les uns contre les autres. Mais...
Alors, vu qu'on parle d'espace, allons-y. Hein. Ce que j'ai noté ces derniers mois, c'est bien sûr la nouvelle annonce d'un Français qui va partir dans l'espace. Thomas Pesquet re-signe pour un nouveau voyage vers l'ISS.
Est-ce que c'était avant ou après le confinement, ça ? Est-ce qu'il aura une attestation spéciale avec une case rien que pour lui ? Je vais dans l'espace.
Alors, Dominique, on ne peut pas laisser la station internationale sans membre à son bord. Donc, on choisit d'envoyer des astronautes régulièrement qui, de toute façon, les astronautes sont très soucieux de leur santé, notamment lorsqu'ils vont dans la station internationale, puisqu'une fois que tout le monde est contaminé là-bas, c'est assez gênant pour bloquer le virus. Donc, je pense que c'est peut-être les gens les mieux placés pour justement éviter d'avoir le virus ou de le propager.
Ils sont mis à l'isolement plusieurs jours avant de partir.
La grande nouvelle, c'est que, et moi c'est ça qui vraiment donne du challenge et un peu d'épice à ce voyage, c'est qu'il va partir avec non pas les vaisseaux russes, non pas avec le Soyuz, mais avec la capsule de SpaceX. Et ça me donne un peu des étoiles dans les yeux, parce que comparé, il est déjà parti avec le Soyuz lors de sa dernière expédition, où on appuie sur des vieux boutons, on a l'impression de repartir en 1960. Ici, on a des écrans tactiles, on a de l'espace, on est assis dans un siège tout confortable avec une super combinaison.
Je suis pas certain que ça me rassure, ça. Au moins, les bonnes vieilles technologies, ça marche bien. Les nouvelles technologies trop propres, trop lisses, soi-disant sûres à 100%, j'ai pas confiance.
Est-ce que tu aimerais que ta voiture soit pilotée via un Windows, Windows 10, le tout dernier Windows ?
Tu fais quoi si tu as un écran bleu au moment de rentrer dans l'atmosphère, hein ?
Ou qui te demande ton compte Facebook au dernier moment pour pouvoir
activer les freins. Puis là, tu as des images qui s'affichent et tu dois reconnaître des images avec des vélos dessus.
C'est vrai qu'avant, c'est vrai que c'était mieux de retirer la disquette et souffler dessus pour que ça reparte. Je suis d'accord avec
moi,
vous.
Ça marche.
Ouais, ou avec du matos, comme on parlait pour le kit dont on parlait en début d'émission, avec du vieux matos, tu mets un bon coup sur la tronche, ça fait une vibration, ça remet des composants ensemble, et hop, c'était reparti, quoi.
Dans l'espace, il faut quand même un matériel éprouvé qui est endurant, et notamment, il y a plein de choses, hein. C'est vrai que quand il y a des éclipses ou des choses comme ça, qui peuvent provoquer des perturbations sur tout ce qui est électronique. Les vieux processeurs, certes, ils sont peut-être vieux par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais au moins ils marchent, ils sont fiables. Et c'est aussi pour ça que dans l'espace, du coup, généralement, c'est plutôt des anciennes générations, mais qui sont fiables, parce qu'on ne peut pas se permettre de tout risquer.
Ouais, mais on ne fait pas de l'obsolescence programmée sur des voyages dans l'espace qui coûtent des millions d'euros. Soyons réalistes, donc je pense que là, pour le coup, on a les meilleurs matériaux possibles et qui ont montré justement leurs preuves dans le passé, ce qui ne sera pas le cas sur ta machine à laver, et ça, personne ne pourra discuter à ce niveau-là.
On disait la même chose pour les masques au moment du confinement. Hein.
T'en vois pas des prototypes, par contre.
Après, tu as le côté où tu es vraiment... c'est des coûts exorbitants pour envoyer une personne dans l'espace, donc... T'as au moins des tests composants qui ont été faits et qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. T'as toujours une impression de meilleure prise, une prise sur les objets anciens que les nouveautés où t'as juste à faire des bip-bip, quoi.
Et si tu regardes bien, le seul qui ramène ses roquettes pour les réutiliser, c'est SpaceX, c'est Elon Musk. Oui. Donc, niveau durabilité, je pense qu'on peut peut-être lui faire confiance, même s'il est en train de se planter complètement. Et pour le coup, il est en train de creuser sur Terre. Hein. Il n'est pas encore sorti avec ses tunnels de la Boring Company.
Oui, non seulement il est en train de creuser sous Terre, mais avec il a envoyé 42 000 vaisseaux, satellites dans l'espace, c'est ça ? Ou c'est ce qui est prévu ? Et il y a à peu près 3% de ces satellites qui vont pas marcher. Donc, sur 42 000 engins, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3% de 42 000, faites le calcul, ça va être autant de petits objets qui vont se promener sur Terre, qui vont les cogner dans les... Thomas Pesquet, il va s'en prendre un, ça va pas manquer.
Ouais, mais bon, est-ce qu'on a dit quelque chose lorsqu'on passait des lignes électriques au-dessus de notre tête ? Non.
Oui, on a dit. Personne nous a écouté. Et voilà où on en est. Et maintenant, on est confinés.
Et il y en a...
C'est quoi le rapport ?
Forcément, la pollution de SpaceX, mais ils ne sont pas les seuls. Est-ce qu'on parle des navettes chinoises ?
Ça, c'est une bonne excuse, ça. Je ne suis pas le seul, alors j'ai le droit. Oui, bien sûr.
Je tiens à signaler qu'on parlait de jeux de société tout à l'heure, jeux de plateau.
Ouais.
Il y a la version 4, et oui déjà, du jeu High Frontier, qui va bientôt sortir. Donc, version 4, donc c'est un jeu qui est sorti depuis plus de 10 ans. Et là, c'est un peu comme Kerbal Space Program, c'est-à-dire que vous devez vraiment développer votre vaisseau, partir dans l'espace, donc vous dirigez une agence spatiale, et vous allez devoir faire des choix donc sur la technologie de votre moteur, sur le poids que vous prenez avec, bref. tout ce qui est carburant et autres, pour réussir à construire un peu des usines dans l'espace. Alors, c'est pas le genre de jeu qui joue en 10 minutes, vous le comprenez bien, mais en même temps, moi j'y avais joué qu'une seule fois, mais ça m'avait vraiment donné envie d'y jouer. En plus, bon, forcément, le thème, j'adore. Vous pouvez vraiment vous planter, c'est-à-dire, si vous faites des mauvais calculs, eh ben, vous envoyez votre navette dans l'espace, vous atterrissez, admettons, sur la Lune, et puis vous apercevez que, ah bah mince, vous êtes trompé, vous n'avez plus assez de carburant pour repartir, et vous avez perdu la partie.
Ça me rappelle de longues parties à Kerbal, justement, putain. Mais ça a l'air, alors, lorsqu'on regarde un peu des screenshots, rien que la carte du jeu,
elle est grande, elle est énorme. Elle est énorme
et elle est détaillée, mais on a l'impression de voir des étoiles et qu'on va se balader pendant des
milliers d'années. En sachant que vous ne pouvez pas partir comme vous voulez dans l'espace, hein, donc forcément, il y a tout ce système de gravité à respecter. En fonction des points où vous êtes, vous consommez plus ou moins pour pouvoir, on va dire, repartir. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça génial.
Non, mais une fois que tu fais tes prévisions sur la gravité, comment est-ce que tu sais que ça se met en place?
Ah bah tu comment dire, par rapport à ton vaisseau, tout ça, enfin tu sais si ce que tu fais finalement ça marche.
D'accord.
Si tu peux du coup redécoller, t'échapper à l'atmosphère, à la gravité de telle ou telle planète, ou et du coup réussir à avoir suffisamment après de ressources, suffisamment d'eau aussi pour pouvoir même nourrir tes spationautes, parce que bon, ils ont besoin de ressources aussi. Donc, enfin, t'as les règles qui t'expliquent. Ce qui est bien, c'est que dans cette nouvelle version, donc qui sera aussi localisée en français, hein, donc ce sera traduit, t'as différents niveaux de difficulté de règles, donc tu peux y aller au fur et à mesure. Parce qu'avant, la version 3, c'était assez compliqué quand même de rentrer dedans. Par contre, la version 4, tu pourrais y aller en plusieurs étapes, et justement avec une difficulté croissante, avec donc de plus en plus de règles. Et puis du coup, tu peux atteindre aussi les planètes très éloignées.
Mais ça donne envie. Peut-être une version en ligne pourrait séduire les gens, surtout en ce moment. Parce que...
Mais c'est possible. De mémoire, il y a une version en ligne qui existe, alors avec des règles qui étaient dans la version prototype. Mais tu as aussi effectivement une version en ligne qui existe.
Tu as même un drive qui te permet d'imprimer certains éléments par toi-même.
Oui.
Ça a l'air vachement sympathique. Alors, tu as mentionné Kerbal Space Program.
Yes, la version 1, en attendant la 2.
Alors, voilà, on attend la 2 qui sortira, qui a été repoussée, un peu comme tous les films du moment, repoussée pour 2021. Et je trouve que c'est dommage pour eux de repousser un jeu, alors que maintenant, c'est là où le marché du jeu vidéo, justement, prend une expansion assez forte, puisque les gens restent chez eux. Et là, ça permettait de voyager, pour le coup, dans l'espace. Et la version 1 est quand même assez incroyable. Elle te fait rentrer dans... Alors, on a l'impression, en voyant les personnages, que ça va être un jeu un peu bidon, voire pour les enfants. Et en fait, ça se révèle comme une machine à gaz pour comprendre la gravité. C'est assez incroyable de découvrir comment est-ce qu'on lance une roquette, comment est-ce qu'on doit calculer la gravité, etc. C'est un des jeux les plus complets du moment.
Enfin, effectivement, quand on est complet... Notamment, il prend en compte de nombreux critères techniques. Hein. Vous allez devenir après un pro d'espace avec ça. Effectivement, au-delà de l'aspect « les bonhommes sont verts, on s'amuse bien », avant de réussir à faire décoller votre fusée, vous allez y passer quelques heures.
Quelqu'un qui joue à Kerbal Space Program et qui commence à maîtriser le jeu, à en passer des jours et des jours dessus, je pense qu'il peut appliquer à l'Agence spatiale européenne au bout d'un moment, tellement il a développé justement une compréhension, et puis il est devenu un pro des maths, etc., pour calculer tout ça, quoi. Est-ce que j'exagère là-dessus ?
Vu le peu de choses que j'ai vues de ce jeu, je me suis dit non, tu n'as pas tort dans ce que tu dis. Après, est-ce que tu as vraiment le côté jeu ou tu as le côté simulation qui rentre en compte ? J'y ai pas joué parce que j'ai pas le temps déjà de faire tous les jeux de rôle ou les open world, donc me mettre sur ce genre de jeu qui prend énormément de temps, c'est pas la peine. Par contre, en tâche de fond, j'ai vu pas mal de streamers le faire, se prendre la tête pour faire ne serait-ce décoller une fusée et d'avoir la bonne trajectoire pour aller vers une planète bien définie. T'as un mélange de simulation et de gameplay qui... Est-ce que tu seras un ingénieur une fois que t'auras fini le jeu? Je suis pas sûr.
Je sais pas. Quand tu vois qu'on a des jeux de course automobile où les gens maintenant arrivent à battre les vrais coureur d'automobile.
Oui, c'est un joueur qui jouait, un pilote virtuel qui a joué sur, qui faisait partie de la Grande Turismo Academy. Et donc, il fait partie d'une équipe virtuelle, un petit peu comme il y a des équipes de e-sport, de football ou d'autres sports. Et il faisait partie de la team McLaren. Et il a participé à une course qui s'appelle la Race of Champions. C'était au Mexique. Et c'est une course qui, depuis quelques années, permet de faire s'affronter des pilotes virtuels à des pilotes, des vrais pilotes. Et donc, ce joueur qui s'appelle Enzo Bonito. Et donc, il a réussi à battre un des pilotes qui s'appelle Luca Di Grassi, qui est un ancien pilote de Formule 1. Donc, c'est simple, c'est un joueur qui a commencé devant un écran, quoi, simplement à la manette, et puis qui a réussi à appliquer sur la vraie piste ce qu'il a appris, tous les réflexes qu'il a appris sur les simulateurs. Mais il faut dire que les simulateurs de conduite, maintenant, c'est plus ce que c'était avant, quoi. Avant, on pilotait à la manette. Maintenant, tu peux avoir un vrai baquet chez toi avec un volant, et tu peux avoir un vrai cockpit de voiture de chez toi si tu s'est équipé.
T'avais les volants retour de force, t'étais bien content, et maintenant t'as même les retours de force sur le siège baquet, t'as vraiment toute la sensation qui est prise en compte.
Mais tu vas pas me dire que si le mec, en jouant à Gran Turismo, il est devenu meilleur qu'un pilote automobile, un gars qui maîtrise Kerbal Space, qui est vraiment un truc de simulation.
Attends, il l'a battu sur peut-être une ou deux courses pendant un week-end, hein. Mais après, participer à une année complète de championnat de Formule 1, c'est vraiment autre chose. Mais bon.
Puis après, il y a tout le stress, l'aspect
psychologique. Peut-être qu'un jour, voilà, les joueurs qui arrivent en Formule 1, en général, les joueurs, les pilotes qui arrivent en Formule 1, avant, ils sont passés minimum par le kart quand ils étaient tout petits, etc. Mais peut-être que maintenant, avec les nouvelles générations, effectivement, t'as des joueurs qui, des coureurs, par exemple, qui forcément, à un moment, ont eu un jeu sur manette, une manette entre les mains.
Alors, je vous propose de terminer cette émission avec mon choix pour le back-to-back. Alors, j'ai proposé cette chanson qui sort de terre et qui était assez ouverte, hein, puisque Pierre-Yves est parti directement dans l'espace, dans l'odyssée de l'espace. Dom, toi, tu as choisi un combat entre la Terre et le ciel. Reynald a choisi un truc morbide, forcément.
Normal.
Avec du zombie. Et moi, j'ai choisi The Police, avec un titre qui s'appelle Behind My Camel. Derrière mon camel. Alors, tout simplement parce que c'est une chanson qui a été écrite. Alors ici, on part dans les dernières années de The Police, juste avant que Sting, pendant sa carrière perso, laisse le groupe Police mourir. On est en 1980, ils sont en train de faire leur album qui s'appelle Zenyatta Mandata, le dernier album de The Police. Et Andy Summers, alors il faut savoir que dans The Police, c'est toujours Sting qui écrit les chansons qui vont cartonner. Hein. Les tubes ont toujours été écrits par Sting. Mais ils essaient quand même de mettre des chansons des autres participants, hein, de Stewart Copeland ou de Andy Summers. Et Andy Summers écrit cette chanson qui s'appelle Behind My Camel. Et Sting refuse de jouer de la basse dessus. Donc, si vous écoutez, lorsque vous écouterez la chanson, vous verrez que la basse est un peu plus basique que d'habitude. Une fois que Andy Summers prépare le morceau, Stewart Copeland joue la batterie dessus. Sting n'est pas vraiment d'accord, donc il décide de prendre cette cassette et de l'enterrer dans le jardin pour pas que l'autre puisse la mettre sur l'album. Et Andy Summers, au bout de quelques jours, a pas trouvé sa cassette. The Police, hein, c'est pas une surprise. Sur la fin, il s'arrachait un peu les cheveux. Il a quand même réussi à déterrer la cassette qui était dans le jardin pour la mettre sur l'album Zenyatta Mandata. Donc, voilà pourquoi j'avais mis cette chanson sortie de terre. Voilà, une longue histoire.
Et il n'y avait pas les cartouches de la version Atari ST de E.T. non?
De E.T.
Peut-être. On ne sait pas ce qu'ils ont déterré. Hein.
Ou la chorale des mineurs mexicains, ceux qui sont restés pendant un mois sous terre.
C'est ça. Et bon, j'attendais que Pierre-Yves me relance sur Sting et sur Dune, mais bon, ça ne sera pas le cas. On en parlera lors d'une prochaine émission.
On en parlera quand le film sortira, le nouveau film.
Donc, l'année prochaine. Voilà, c'était la fin de cette émission Heureusement en France. On vous retrouve la semaine prochaine, même si ça sera une émission à la maison. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus. Salut à tous.
Et à plus.
recherche le déterminé 19h09 de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus